2013-2014. En classe de première déjà, Pete Saubers savait quelle serait pour lui la prochaine étape. Une bonne fac de Nouvelle-Angleterre, où la sainteté passait non pas par la propreté, mais par la littérature. Il commença à faire des recherches sur Internet et à rassembler des brochures. Emerson et Boston College semblaient être les candidates les plus probables. Mais Brown n'était peut-être pas hors d'atteinte. Ses parents lui déconseillaient de mettre la barre trop haut. Mais Pete n'adhérait pas à ce genre de point de vue. Il estimait que si t'avais pas d'espoir et d'ambition quand t'étais ado, c'était foutu pour la suite. Quant à se lancer dans des études de lettres, ça ne faisait aucun doute. Cette certitude était en partie liée à John Rothstein et au roman de Jimmy Gold. À la connaissance de Pete, il était la seule personne au monde à avoir lu les deux derniers, et ils avaient changé sa vie. Howard Ricker, son prof de lettres en première, avait lui aussi changé sa vie. Même s'il était la risée de beaucoup d'élèves, qu'il appelait Ricky le hippie à cause des chemises à fleurs et des pantalons pattes d'Ève qu'il affectionnait, la petite copine de Pete, Gloria Moore, l'appelait Pasteur Ricky, parce qu'il avait l'habitude de brandir les mains au-dessus de sa tête quand il était exalté. Cela dit, quasiment personne ne séchait ses cours. Il était amusant, il était enthousiaste, et, à l'inverse de la plupart des professeurs, il semblait sincèrement aimer ses élèves, qu'il appelait « mes jeunes dames et messieurs ». Ses élèves levaient les yeux au ciel devant ses vêtements rétro et son rire perçant, mais ses tenues avaient un certain cachet funky, et son rire était si joyeusement farfelu qu'il en était communicatif. Le premier jour de cours, il était entré en soufflant un vent de fraîcheur sur la classe, avait souhaité la bienvenue à tous et écrit quelque chose au tableau que Pete Saubers n'avait jamais oublié. « C'est nul !»« Que dites-vous de ça, mes jeunes dames et messieurs » demanda-t-il. « Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» La classe resta muette. « Je vais vous le dire, moi. Il se trouve que c'est la critique le plus fréquemment émise par des jouvenceaux tels que vous, condamnés à suivre un programme que nous commencerons avec Beowulf et terminerons avec Raymond Carver. Entre professeurs, nous appelons ces cours d'introduction générale des GGPG, grand galop parmi les géants. » Il s'esclaffa gaiement, agitant aussi les mains en l'air à hauteur des épaules comme pour dire « Oulala !» La plupart des élèves, dont Pete, rigolèrent avec lui. « Modeste proposition » de Jonathan Swift. « Verdict de la classe, c'est nul !»« Le jeune maître Brown » de Nathaniel Hawthorne, « c'est nul !» « En réparant le mur » de Robert Frost, « ça, c'est modérément nul !» L'extrait de Moby Dick de Rigueur, « extrêmement nul !» Nouvelle vague de rire. Aucun d'entre eux n'avait encore lu Moby Dick, mais tous savaient que c'était dur et ennuyeux à lire. Nul, en d'autres termes. « Et parfois, » s'exclama M. Ricker en brandissant un doigt et le pointant de façon théâtrale sur les mots écrits au tableau, « parfois, mes jeunes dames et messieurs, la critique est pertinente. Je me mets à nu ici devant vous, et je l'admets. Je suis contraint de vous enseigner certaines antiquités que j'aimerais mieux ne pas enseigner. Je vois le manque d'enthousiasme dans vos yeux, et mon âme se désole. Oui, se désole. Mais je persévère, envers et contre tout, parce que je sais que la plupart de ce que j'enseigne n'est pas nul. Même certaines antiquités auxquels vous pensez ne jamais pouvoir vous identifier, ont une profonde résonance qui se révélera un jour à vous. Me permettez-vous de vous apprendre à différencier le « pas nul » du « certainement nul » Voulez-vous que je vous livre ce grand secret? Puisqu'il nous reste 40 minutes de cours et que nous n'avons pas encore donné de grain à moudre à nos intellects combinés, je crois que je vais le faire, oui. » Il se pencha et posa les mains sur son bureau, sa cravate se balançant comme un pendule. Pete avait l'impression que M. Ricker le regardait droit dans les yeux, comme s'il connaissait, ou du moins percevait intuitivement, l'immense secret que Pete gardait sous une pile de couvertures dans le grenier de sa maison. Quelque chose de bien plus important que de l'argent. Il arrivera un moment au cours de l'année, peut-être même dès ce soir, où vous lirez quelque chose de difficile, quelque chose que vous ne comprendrez que partiellement. Et votre verdict sera « c'est nul ». Vais-je objecter lorsque le lendemain vous avancerez cette opinion en cour? Pourquoi ferais-je une chose aussi inutile? Nous avons très peu de temps à passer ensemble. Seulement 34 semaines de cours. Et je ne le gaspillerai pas à plaider les mérites de telle nouvelle ou tel poème. Pourquoi le ferais-je? Quand toutes ces opinions sont subjectives et qu'aucun compromis ne pourra jamais être trouvé. Certains élèves, dont Gloria, avaient l'air perdus à présent. Mais Pete voyait exactement ce que M. Ricker, alias Ricky le Hippie, voulait dire. Car depuis qu'il avait commencé à lire les carnets, il avait lu des dizaines d'articles sur John Rothstein. De nombreux critiques considéraient Rothstein comme l'un des plus grands écrivains américains du XXe siècle, de la même trempe que Fitzgerald, Hemingway, Faulkner et Roth. Il y en avait d'autres, une minorité, mais qui savaient se faire entendre, qui affirmaient que son travail était médiocre et creux. Pete avait lu un article dans Salon où l'auteur traitait Rothstein de roi du sarcasme et de saint patron des bouffons. La réponse, c'est le temps, professa M. Ricker le jour de la rentrée de Pete en première. Il faisait les 100 pas, dans le bruissement de ses pattes d'œuf surannées, et brandissait occasionnellement les bras. Oui, le temps trie impitoyablement le certainement nul du pas nul. C'est la sélection naturelle de Darwin. Voilà pourquoi les romans de Graham Greene sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, et les romans de Somerset Maugham, non. Ces romans existent toujours, bien sûr, mais il faut les commander. Et pour les commander, encore faudrait-il les connaître. La plupart des lecteurs d'aujourd'hui ne les connaissent pas. Que ceux qui ont déjà entendu parler de Somerset Maugham lèvent la main. Je vais vous les plaire. Aucune main ne se leva. Monsieur Ricker hocha la tête. Assez sombrement, selon Pete. Le temps a décrété que Monsieur Green n'était pas nul et que Monsieur Maugham était, eh bien, pas exactement nul, mais disons plutôt peu mémorable. Selon moi, il a écrit de très bons romans. L'envoûté est remarquable, mes jeunes dames et messieurs. Remarquable. Et il a également écrit un grand nombre d'excellentes nouvelles, mais rien de tout cela ne figure dans vos manuels. Devrais-je en pleurer? Devrais-je enrager, taper du poing sur la table et crier à l'injustice? Non, bien sûr que non. Une telle sélection suit l'ordre naturel des choses. Vous en prendrez conscience, mes jeunes dames et messieurs, même si au moment où cela arrivera, je serai loin dans votre rétroviseur. Et voulez-vous savoir comment cela arrivera? Vous lirez quelque chose, peut-être le poème de Wilfred Owen, « Dulce et decorum est ». Est-ce un bon exemple? Pourquoi pas? Et alors, d'une voix plus grave et profonde, qui fit monter des frissons dans le dos de Pete et lui noua la gorge, M. Ricker déclama « Pliez en deux, tels de vieux mendiants sous leurs sacs, harpies cagneuses et crachotantes, à coups de jurons nous pataugions dans la gadoue, et ainsi de suite, etc. » Certains d'entre vous diront « C'est nul. Vais-je pour autant rompre ma promesse de ne point réfuter votre argument, bien que je considère les poèmes de M. Owen comme les plus grands poèmes issus de la Première Guerre mondiale ?» Non. Ce n'est que mon opinion personnelle, vous voyez. Et les opinions, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a. Tous eurent l'air de rire, jeunes dames et messieurs confondus. Monsieur Ricker se redressa. Il m'arrivera de coller certains d'entre vous si vous perturbez mon cours. Je n'ai aucun problème avec le respect de la discipline, mais jamais je ne critiquerai votre opinion. Et pourtant, doigt en l'air. Le temps passera. Tempus fugit. Le poème d'Owen s'effacera peut-être de votre esprit, auquel cas votre verdict, c'est nul, se sera vérifié, du moins pour vous. Mais pour d'autres, il continuera de résonner, et de résonner, et de résonner, et à chaque fois, la marche assurée de votre maturité approfondira sa résonance. À chaque fois que ce poème reviendra se glisser dans votre esprit, il vous semblera un peu moins nul et un peu plus vital, un peu plus important, jusqu'à ce qu'il flamboie, mes jeunes dames et messieurs, jusqu'à ce qu'il flamboie. Ainsi s'achève ma péroraison de rentrée, et maintenant, je vous prie de vous reporter à la page 16 de ce très excellent ouvrage qu'est « Langue et littérature ». L'une des nouvelles que M. Ricoeur leur donna à lire cette année-là était « Le cheval à bascule » de D. H. Lawrence, et sans surprise, beaucoup des jeunes dames et messieurs de M. Ricoeur, parmi lesquels Gloria Moore, dont Pete commençait à se lasser en dépit de ses seins vraiment parfaits, la trouvèrent nulle. Mais Pete, non. En grande partie, parce que certains événements de sa vie l'avaient fait mûrir avant l'âge. Alors que 2013 s'effaçait devant 2014, l'année du fameux vortex polaire, où toutes les chaudières dans le nord du Midwest tournèrent en sur-régime, brûlant l'argent à la pelle, cette nouvelle revint souvent se glisser dans son esprit. Et sa résonance continua de s'approfondir et de revenir. Dans cette nouvelle, la famille ne semblait manquer de rien. Mais ce n'était qu'une illusion. Il n'y avait jamais assez. Et le héros, un jeune garçon nommé Paul, entendait sa maison lui murmurer « Il faut plus d'argent, il faut plus d'argent !» Pete Saubers pouvait concevoir qu'il y ait des jeunes qui trouvent ça nul. C'étaient les chanceux qui n'avaient jamais eu à écouter des wafi wafi tous les soirs de la semaine sur quelle facture payer, ou le prix des cigarettes. Le jeune protagoniste de la nouvelle de Lawrence découvrait un moyen surnaturel de gagner de l'argent. En chevauchant son cheval à bascule jusqu'au pays imaginaire de la chance, Paul pouvait connaître le résultat des courses de chevaux dans le monde réel. Il gagnait des milliers de dollars. Et pourtant, la maison continuait de murmurer « Il faut plus d'argent !» Après une dernière et longue chevauchée et une ultime grosse rentrée d'argent, Paul tombait raide mort suite à une hémorragie cérébrale ou autre. Pete, lui, n'avait pas eu le moindre mal de tête après sa découverte de la malle enterrée. Mais c'était quand même son cheval à bascule, pas vrai? Oui, son cheval à bascule à lui. Pourtant, en 2013, l'année où Pete fit la connaissance de M. Ricoeur, le cheval à bascule commençait à ralentir. L'argent de la malle était presque épuisé. Cet argent avait permis à ses parents de traverser une zone de turbulence difficile et angoissante à un moment où leur couple aurait pu se cracher et brûler. Ça, Pete le savait. Et pas une fois, il n'avait regretté d'avoir joué les anges gardiens. Pour reprendre les paroles d'une vieille chanson, l'argent de la malle avait jeté un pont par-dessus des eaux troubles, et la vie était meilleure, bien meilleure, de l'autre côté. Le plus gros de la récession était passé. Maman enseignait de nouveau à temps plein et touchait 3000 dollars de plus par an. Papa gérait sa propre petite entreprise. Pas vraiment une agence immobilière, mais quelque chose qui s'appelait une expertise immobilière. Il avait plusieurs agences de la ville pour clients. Pete ne comprenait pas totalement comment ça marchait, mais il savait que ça rapportait de l'argent et que ça pouvait en rapporter davantage dans les années à venir si les prix du marché immobilier poursuivaient leur tendance à la hausse. Papa s'occupait aussi, en son nom propre, de la vente et de la location de plusieurs propriétés. Et le mieux, c'est qu'il ne prenait plus du tout de médicaments et qu'il marchait bien. Les béquilles étaient dans le placard depuis un an, et il se servait seulement de sa canne quand il pleuvait ou neigeait et que ses os et ses articulations le faisaient souffrir. Tout allait bien. Super bien, même. Et pourtant, comme avait coutume de dire M. Ricoeur au moins une fois par cours, et pourtant, il y avait Tina à prendre en considération. Et ça, c'était un très gros « et pourtant ». Beaucoup de ses amis de leur ancien quartier du West Side, dont Barbara Robinson, que Tina avait idolâtrée, entraient à Chapel Ridge à la rentrée, une école privée qui avait l'excellente réputation d'envoyer ses élèves dans de très bonnes universités. Maman avait dit à Tina que papa et elle ne voyaient pas comment ils pourraient financièrement l'envoyer là-bas dès l'année prochaine. Peut-être qu'elle pourrait y entrer en deuxième année si leurs finances continuaient de s'améliorer. « Mais je connaîtrai personne à ce moment-là !» avait répondu Tina en se mettant à pleurer. « Tu connaîtras Barbara Robinson ?» lui avait dit maman. Et Pete, qui écoutait depuis la pièce d'à côté, entendit à sa voix qu'elle aussi était au bord des larmes. « Et aussi Hilda et Betsy !» Mais Tini était un peu plus jeune qu'elle. Et Pete savait que seule Barbs avait vraiment été copine avec sa sœur du temps du West Side. Hilda Carver et Betsy DeWitt ne se souvenait probablement même plus d'elle. Idem pour Barbara d'ici un an ou deux. Leur mère semblait avoir oublié à quel point le lycée est une étape cruciale, et à quelle vitesse on oublie ses copains de collège une fois qu'on y entre. Tina résuma la totalité de ses pensées avec une concision admirable.
« Ouais, mais elles ne me connaîtront pas, moi. »«
Tina. »«
Mais vous avez cet argent, là !»
s'exclama Tina.
« L'argent mystère qui arrive tous les mois. Pourquoi je ne pourrais pas en avoir un peu pour Chapel Ridge ?»«
Parce qu'on est tout juste en train de se remettre des mauvais jours, ma chérie. » À ça, Tina ne pouvait rien répondre, parce que c'était vrai. Les projets universitaires de Pete étaient un autre et pourtant. Il savait que pour certains de ses amis, peut-être la plupart d'entre eux, la fac semblait à des années-lumière, comme les planètes les plus éloignées du système solaire. Mais s'il en voulait une bonne, Brown, lui chuchotait son esprit. Littérature anglaise à Brown. Ça voulait dire déposer des candidatures dès le premier semestre de terminale. Les candidatures, à elles seules, coûtaient de l'argent, tout comme les cours d'été qu'il devrait prendre s'il voulait avoir la moyenne à l'épreuve de mathématiques de l'examen d'entrée. Il avait un boulot à temps partiel à la bibliothèque de Garner Street, mais 35 dollars par semaine, ça menait pas bien loin. L'entreprise de papa s'était suffisamment développée pour rendre alléchante l'idée d'un bureau en ville, et ça, c'était le « et pourtant » numéro 3. Juste un petit local pas cher au dernier étage, et être au cœur de l'action rapporterait des dividendes. Mais ça voudrait dire aligner plus d'argent. Et Pete savait, même si personne ne le disait clairement, que son père comptait sur l'argent mystère pour se lancer. Ils avaient tous fini par dépendre de l'argent mystère, et seul Pete savait qu'il serait épuisé avant fin 2014. Et, ouais, d'accord, il en avait dépensé un peu pour lui. Pas une somme astronomique, ça aurait éveillé des soupçons. Mais 100 dollars par-ci, 100 dollars par-là. Un blazer et une paire de mocassins pour le voyage scolaire à Washington. Quelques CD. Et des livres. Il était devenu dingue de livres depuis qu'il avait commencé à lire les carnets et qu'il était tombé amoureux de John Rothstein. Il avait commencé par les auteurs juifs contemporains de Rothstein, comme Philip Roth, Saul Bellow et Irwin Shaw. Il trouvait que Le bal des maudits était un putain de chef-d'œuvre. Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il ne faisait pas partie des classiques. Il avait ensuite élargi son champ de lecture. Il achetait toujours des livres de poche. Mais à l'heure actuelle, même les livres de poche coûtaient 12 ou 15 dollars, sauf si on pouvait les trouver d'occasion. Le cheval à bascule avait de la résonance, c'était clair. Une sacrée résonance. Parce que Pete entendait sa propre maison murmurer « Il faut plus d'argent ». Et que, sans tarder, c'était moins d'argent qu'il y aurait. Oui, mais dans la malle, il n'y avait pas que de l'argent, pas vrai? C'était ça, le dernier et pourtant, celui auquel Pete pensait de plus en plus à mesure que le temps passait.